Europe 1, la Libre Antenne, Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une agréable journée, que pour celles et ceux qui aiment le football, vous en avez eu pour vos émotions. Entre hier, une belle équipe de Marseille qui a gagné 4-1, et ce soir, nos valeureux parisiens qui ont été faire un partout en terre portugaise. Ça n'est jamais facile, croyez-moi, en terre portugaise de ramener un point, donc c'est déjà ça, et nous nous en félicitons ici à Europe 1. Comment allez-vous? Comment s'est passée cette journée? Nous sommes en milieu de semaine. Quel bilan feriez-vous au milieu de cette semaine, de votre vie? Vous le savez, nous sommes là pour vous écouter, chers amis. Donc, vous composez le 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Vous nous écrivez vos SMS au 7-39-21, suivi du mot « nuit », écrit en lettres majuscules. Vous nous écrivez aussi sur le groupe Facebook Yann Moix, Olivier Delacroix, La Libre Antenne, et vous écrivez en privé à Florian et à Julia, ainsi que vos mails à libreantenne@europe1.fr. Voilà, le sentier est parsemé de petites bougies. Imaginez-le dans votre esprit, et vous êtes là, vous êtes en train de marcher vers Europe 1, vers un téléphone, et vous allez composer le 39-21 et parler à la gentille Julia ou le gentil Florian, et peut-être aurai-je le plaisir d'échanger avec vous tout à l'heure. Votre libre antenne du mercredi, c'est parti.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Catherine. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Catherine?
Alors, du Midi-Pyrénées.
Du Midi-Pyrénées, d'accord. Et quel âge avez-vous?
67 ans.
D'accord. Quel est, de quoi vous voulez nous parler ce soir?
J'ai du mal un peu à cerner mon fils cadet. Voilà, j'ai deux fils.
Oui.
L'aîné qui a 46 ans et lui qui a 43 bientôt, là, le 20 octobre.
D'accord. Cela a toujours été le cas ou...
Disons que, oui, un petit peu, c'est quelqu'un qui s'est forgé tout seul, qui a une situation professionnelle, je trouve qu'il, voilà, il est webmaster, il s'est bien sorti de son... Non, il a une belle réussite professionnelle. Ça a toujours été un petit peu distant entre nous, parce que moi, je mettais ça un peu sur le compte, qu'il avait sa vie parisienne... Voilà, avec un milieu un peu, passez-moi l'expression, un peu bobo, où il avait l'impression qu'il faisait partie d'une forme d'élite, et que j'ai pas toujours trouvé ma place dans ce monde-là, donc voilà. Après, il s'est trouvé en couple, donc une petite fille est née de ce couple, donc il me tenait à cœur de l'avoir, cette pitchoune, donc j'étais montée à Paris... pour la voir, j'y trouvais toujours pas ma place dans cette histoire. J'avais dû louer un petit Airbnb pour pouvoir la voir, puisque eux travaillaient. Voilà, mais bon, je me disais, il est comme ça, c'est pas grave. Voilà. Et puis, il y a un an de ça, sa compagne l'a quitté.
Oui, la maman de la petite fille.
Oui.
D'accord.
Et là, d'un seul coup, j'avoue que j'ai été flattée presque. Il n'avait de cesse que de m'appeler, de s'épancher, de pleurer, de se demander ce qui lui arrivait, que ce n'était pas la vie qu'il avait prévue, qu'il avait tout bâti pour avoir cette famille.
Oui,
Et voilà, je l'écoutais, je calmais ses angoisses, tout ça par téléphone. Ça me tendait le cœur quand je l'entendais pleurer à chaudes larmes. Je suis monté 3 fois en catastrophe sur Paris parce que c'est lui qui le réclamait. Viens me voir, ça me fera du bien, etc. Mmh. Donc, oui, j'étais contente. Voilà, je retrouvais mon minot. Et puis, au mois de juillet, il devait venir passer une semaine avec la petite. Et moi, dans cet intervalle, cette semaine-là, juste avant qu'il arrive, le 24 juillet, mon frère est mort. Mon frère, c'était mon jumeau. On avait 2 ans d'écart. J'ai été laminé. Mon chagrin m'a mis à genoux.
Oui.
D'autant plus que 2 ans avant, le même jour, mon autre frère venait de mourir aussi. Ça se passait à la même date. J'étais complètement paumé. J'ai dit, écoute, Thomas, je suis pas dispo, là. Je pourrais pas, Thomas. Je pourrais pas.
Mmh. Donc, ce qui s'entend complètement, hein, Catherine.
Voilà, il m'a envoyé un gentil message, sincères condoléances, bon courage, etc. Mmh. Et donc, je suis allée aux obsèques de mon frère, hein, avec mon compagnon, ma sœur, etc. Et quand je suis rentrée, j'ai repris. Bon, comme on dit, la vie continue, ça me fait chier de dire ça, mais hélas, c'est comme ça que ça se passe. Et voilà, j'ai repris contact, voilà, je suis bien rentrée, etc. Et voilà, je retrouve la distance d'avant.
C'est-à-dire qu'il est revenu au point de départ, à être distant, à être.
Voilà.
À ne vous appeler que pour des choses un peu.
Oui, là, c'était l'anniversaire de la petite. J'ai envoyé un cadeau, comme je le fais, que ce soit à Noël ou voilà, etc. C'est moi qui, en suivant le colis sur Internet, a vu que le colis avait été livré. Donc, tout ça, c'est par texto, hein, parce que quand il était distant dans ses approches avec moi, c'était que par texto, alors que quand il allait pas bien. On savait et par texto et au téléphone en direct, ou quelquefois on restait même une heure ou deux au téléphone, etc. Donc là, je lui dis, pour l'anniversaire de la petite, j'ai vu que le collier était livré, ça lui a fait plaisir. Il me répond, ouais, super. Puis voilà, c'est tout. Donc je lui demande à quel moment je peux joindre la petite en passant par son téléphone, puisqu'il l'a en garde alternée. Me dit, rappelle tel jour à 20h. Donc, je rappelle à 20h. Donc, j'ai la petite en visio. Oh, mamie, ça va? Oui, oui. Bon anniversaire, ma puce. C'est gentil. Puis, à un moment donné, elle me dit, quitte pas, je vais aux toilettes. Je dis, oui, d'accord, ok, je t'attends. Et elle revient et elle me dit, papa, je te laisse parce que papa, il m'a dit qu'il fallait que j'aille prendre mon bain. Voilà, terminé. Depuis, pas de nouvelles.
Il est plutôt fin comme garçon, ou il est un peu matheux, un peu, vous voyez, un peu.
Qu'est-ce que vous entendez, Olivier, par.
J'essaie de trouver les bons mots. Est-ce que c'est plutôt quelqu'un que vous trouvez subtil, un peu spirituel?
Non, pas du tout.
Non, pas du tout. Il est plutôt dans quand je dis matheux, parce que vous m'avez dit qu'il est webmaster, c'est cette génération très ordinateur aujourd'hui, enfin, je dis ordinateur, Internet, tout ça, qui représente une génération qui gagne très bien sa vie, qui. C'est une nouvelle industrie et un secteur qui embauche beaucoup. Mais. C'est peut-être un secteur aussi où les gens sont sur des ordinateurs toute la journée. Je suis admiratif, hein, moi, de ça, que je précise bien, et que celles et ceux qui sont dans ce secteur ne se sentent pas offensés. Mais quand on a. Voilà, j'entends par là, est-ce que c'est un garçon qui n'est pas trop spirituel, trop aérien, en fait, il est un peu terre à terre.
Oui, il bosse de chez lui en plus.
Comme ça, vous pouvez bosser de chez vous et faire. Vous pouvez faire de la cuisine, vous voyez.
Mais, oui, mon compagnon, il bosse de la maison.
Bah oui.
Et c'est un cuisinier hors pair.
vous voyez. Non, voilà. J'entends par là que se rend-il compte qu'il est un peu brut, un peu brut de décoffrage dans sa manière d'agir ou de dire les choses.
Je pense pas.
Ouais, c'est ça.
Parce que c'est vrai qu'il peut l'être, hein, un peu brutus. Hein,
bah, si vous voulez, quand vous perdez votre frère adoré.
Ouais.
Et qu'il vous dit juste toutes mes condoléances, qu'il ne vient même pas aux obsèques de votre frère, je pense que vous auriez apprécié qu'il vienne sans doute, qu'il vous accompagne dans ce moment.
Géographiquement, c'était compliqué.
D'accord.
Et puis, il ne se côtoyait pas vraiment, quoi.
D'accord.
Ouais. Mais par exemple, son frère, quoi, l'aîné, il m'appelle toutes les semaines, lui. Alors lui, vraiment, il ne rate pas. Ouais, même, c'est pour dire tout va bien. Rien de nouveau. Il habite aussi la région parisienne, lui, comme son frère. Ils habitent pas loin l'un de l'autre, d'ailleurs. Et je lui dis, donc je lui en parle. Je lui dis, voilà, pour l'anniversaire de la petite, voilà. Il me dit, ben là, il m'a sollicité parce qu'il déménage mi-octobre. Il a trouvé un autre truc. Alors je dis, ah bon, on n'a même pas parlé. Il dit, ouais, mais c'est lui, maman. C'est bien comment il est, un peu égocentriste.
Il est égocentrique. Ouais. Vous le trouvez égocentrique?
Enfin, disons qu'il va penser à son univers à lui, son univers proche.
Mm-hmm.
Par exemple, quand il était en couple, je sentais que j'avais pas ma place dans cette histoire qui était. Et j'avais même l'impression, quand j'étais de passage à Paris, qu'on se voyait, qu'il avait reformé une famille avec donc sa compagne et la famille de celle-ci. Et que moi, j'étais un peu à l'écart de tout ça.
Oui, d'accord.
Comme si j'étais sur le bord du chemin, quoi.
Mmh.
J'étais observatrice, voilà.
Oui, donc...
C'est pas quelqu'un qui va me prendre dans ses bras ou... voilà. Non, il a pas... Vis-à-vis de sa fille, il le fera. Hein. Ça, vraiment, il est très câlin. Mais moi, non.
Est-ce qu'au final, ne vaudrait-il pas mieux accepter cette nature et...
Ben, c'est ce que je me dis.
Et ne plus vous en faire avec ça, vous voyez, parce que...
Mais là, la transition, elle était tellement... c'était tellement... Voilà, où on a passé des heures au téléphone, où je le consolais, où... Je lui disais, mais Thomas, la vie continue, je sais bien, je lui disais, c'est dur à te dire, mais comment, maman, on peut dire qu'on aime quelqu'un, après lui dire qu'on n'aime plus, moi, ma vie, c'était ça, c'était elle, la petite, etc. Et voilà, donc avec mes mots à moi, j'essayais de lui expliquer que, oui, certes, c'était ça, mais que ça ne l'est plus, quoi. Il va falloir qu'il avance avec ça.
Mmh.
Et il était suivi par deux psys pendant cette période. Voilà, et donc, oui, peut-être, Olivier, vous me dites, acceptez, oui, sans doute. Mais là, ça me taraudait, je me disais, mais on revient à ce que c'était avant.
Mais oui, parce que peut-être, tout simplement, que votre fils cadet est un peu égoïste. Hein, il a un petit côté, je pense à moi. Il a peut-être aussi le sentiment que maman a toujours été là. Maman, elle est là dans les coups durs. Maman, elle est forte. Et j'en ai besoin, donc je l'appelle. J'en ai plus besoin, je l'appelle moins. Est-ce que vous lui avez dit est-ce que vous avez eu une discussion avec lui
à ce propos ?
Vous n'osez pas, vous craignez. Que craignez-vous finalement ? Parce que vous n'allez pas lui rentrer dedans, vous voyez, c'est possible d'expliquer les choses de manière douce, de manière constructive, sans qu'il y ait de conflit.
Non, je crois qu'il va me dire, mais
t'es pas bien, ça va pas.
Elle est tombée de l'armoire.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est peut-être lui qui va tomber de l'armoire, plutôt. Il va peut-être... c'est ça, en fait, j'ai l'impression qu'il est capable d'être surpris, en fait. Vous voyez, peut-être ne remarque-t-il pas ce genre de choses. J'aimerais savoir, parce que peut-être encore une fois je m'avance, mais la raison de la rupture avec la maman de sa petite fille, de leur C'est quoi?
Elle lui a dit qu'elle ne l'aimait plus. Hein.
Oui.
Ouais.
Mais est-ce qu'il lui a dit pourquoi? Est-ce qu'il vous en a parlé? Parce
elle
que peut-être
dit...
que la
oui,
même...
Ah oui, m'en a sur le fond, il m'en a beaucoup parlé.
Mm-hmm. Et peut-être, elle, ce... a... peut-être a-t-elle
elle
développé
a
le même était... sentiment que vous? C'est-à-dire...
Non, elle lui a dit, vous savez le mot à la mode, t'es un pervers narcissique, tu me gonfles, règle tes problèmes...
Pervers narcissique encore. Ça, c'est le terme générique.
Ouais.
Ça, c'est le fourre-tout.
Ouais, ouais. Exactement. Non, je crois qu'elle l'est. Enfin, je sais pas, je crois. Elle l'aimait plus, point barre. Et puis,
Oui, mais quand on n'aime plus, c'est pour. Il y a des raisons à ça.
Oh, ouais. Oh, je sais pas. Moi, quand j'ai quitté leur papa, il y avait cette forme de désamour. Hein. Mm-hmm. Je l'aime plus. Ouais, voilà. Alors que. Voilà, c'est ça que lui, il comprenait pas. Il me disait, mais maman, même si on n'aime plus. On peut rester ensemble. C'est pas grave, on peut rester ensemble. Même, c'est sûr qu'on peut plus aimer comme au premier jour. Mais voilà, il comprenait pas qu'on mette fin à quelque chose. Alors que, il me dit, mais c'est sûr qu'on peut pas s'aimer passionnément tout le temps, tout le temps. Il me dit, regarde, toi, t'es bien parti.
Il y a... Bon, il y a dans son comportement quelque chose qui vous blesse, visiblement, et moi, je vous engage vraiment à en parler avec lui.
Ouais, mais je préférerais le faire de vive voix, pas par téléphone. Par téléphone, je sais pas, je trouve que...
Ah non, non, mais pas par téléphone, bien
voilà.
sûr. Pas par téléphone.
Parce qu'à chaque fois qu'il a eu des coups de mou dans sa vie... Qu'il chamboulait, qu'il mettait en branle un peu. Il est très cartésien. C'est comme ça que ça doit être fait, les choses. Donc, on les fait comme ça.
Mmh.
Et donc, à un moment donné, il m'avait appelé aussi, ça remonte à quelques années, parce qu'il était au tout début de sa relation avec la mère de la petite, et il était troublé par une autre nana du boulot. Et il m'avait appelé pour me faire part de son trouble. Et il m'avait dit, qu'est-ce que je fais, maman? Qu'est-ce que je fais? Et il était perturbé d'être... De dévier de ce que lui était en train de construire. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait.
Mais oui, oui, il a pris une grande tarte. Parce que peut-être est-il un peu auto-centré, vous voyez? Parce que
oui, oui,
j'ai l'impression qu'il est avec vous. Donc, s'il est avec vous, il a pu l'être avec sa femme. Vous savez,
comme il l'est avec son frère. Hein.
Et donc, à force de ça, ben, quand on a affaire à quelqu'un qui est auto-centré, qui parle de lui tout le temps, ben, finalement, au bout d'un moment, ça fatigue un peu. Parce qu'il n'y a
jamais.
Et toi, comment tu vas? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Comment est-ce que tu te sens là? Comment tu traverses la vie en ce moment, enfin, vous voyez, moi j'aime bien...
Un jour il m'a dit, mais de toute façon, toi t'es une executive woman. T'as genre de... Je lui ai dit, non, pas
mais
du tout.
Qu'est-ce qu'il entendait par là?
Eh bien que je retombais toujours sur mes pattes, comme un chat, que même si j'avais des coups durs, ben je...
Vous voyez, je vous le disais tout à l'heure.
Ouais.
En fait, maman, elle est forte, maman... Oui, je vous le disais tout à l'heure. Voilà. Donc, à partir du moment où il a pris la solution, oh bah maman, elle retombe toujours sur ses pattes comme un chat. Bon, maman, elle n'est pas fragile. Donc, j'ai besoin d'elle, je la sollicite. Et puis, bah, au moment où j'en ai plus besoin, où la vie reprend un peu son droit, et bah, maman, je l'appelle quand j'ai besoin. Voilà.
Et là, il s'est dit, quand je lui ai dit, mon frère vient de mourir, je vais pas. Je lui ai dit, je suis pas bien, j'ai la tête à l'envers, je suis complètement secoué.
Oui, il a pas vraiment percuté à mon avis. On va marquer une petite pause, Catherine, et puis on se retrouve dans quelques secondes, d'accord?
La libre antenne d'Europe 1. Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS.
23h30 sur Europe 1 et si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur votre libre antenne et vous pouvez composer le 3921 si toutefois vous avez envie de me parler. En fait, il est très occupé avec la petite et il n'a pas à cœur d'entretenir les liens familiaux. Acceptez-le comme il est et restez sa maman. C'est Sarah qui nous envoie au 739-21 ce message. Qu'en pensez-vous, Catherine ?
Oui, je pense que voilà, ça m'a. Je vais revenir à ce que c'était comme il y a un an avant, quoi.
Il faut, si vous ne vous sentez pas de lui parler, vous devez donc accepter cet état de fait qui, le passé vous l'a montré, les épreuves de la vie peuvent le ramener vers vous, en fait. À un moment, il peut... Voilà, c'est quand il aura besoin de vous. Après, moi, je vous encourage quand même à lui dire que...
Ah oui, non, mais c'est sûr. Dès que j'aurai le... Enfin, que je le... Et parce que ça se trouve aussi bien cet été ou...
Ou à Noël, vous ne faites pas Noël ensemble, en famille, tous les trois, là ?
Non, c'est compliqué, parce que ils n'ont pas de... C'est compliqué, parce que moi, je ne monte pas, parce que j'ai pas... mon fils aîné n'a pas l'occasion, lui, de pouvoir me loger, enfin, de nous loger, puisqu'on est deux, avec mon compagnon, et Thomas, c'est même pas la peine, j'en parle même pas, quoi. Non. Je vais lui proposer de venir, hein, s'il veut, hein, c'est sûr.
Mais oui, proposez-lui, ça lui ferait du bien. Voilà. Puis la petite, c'est bien pour Noël d'être entouré de la famille. Enfin, je trouve que les enfants...
Oui, je vais lui proposer. Mais tout aussi bien, même au printemps, ou un jour, il va m'appeler, il va me dire, ben, on peut descendre avec la petite la semaine prochaine. Il est comme ça aussi. Hein.
Parce que vous êtes dans une belle région, en plus. Le Lot, c'est super.
Et vous saviez.
Ben oui, on y mange bien.
C'est mon havre de paix.
Voilà. Et puis quand ça va pas, vous demandez à votre compagnon de vous faire un bon petit plat, la mode du Lot. Et vous allez voir, ça va vous remonter le moral. Hein ?
Oui. On va manger du foie gras. Exactement. Pas de canard, il n'y en a pas cette année avec la grippe aviaire.
Ah, tiens, encore un truc de ce monde-là. Bah écoutez, on vous souhaite bon courage, Catherine, mais bon, ça va. Je pense que vous allez... Je ne vais pas vous dire
j'étais
que vous êtes...
J'étais troublée, c'est pour ça que je vous ai appelé.
Mais vous avez bien fait,
Voilà.
Mais il n'y a pas péril en la demeure. Acceptez, acceptez la nature de cet enfant, qui est un homme aujourd'hui, mais qui peut entretenir son petit côté, un peu, je pense à moi, avant le reste. Ayant vécu quand même cette épreuve de la rupture, un chagrin d'amour, visiblement, parce qu'il était encore amoureux de sa femme, visiblement. Il doit aussi retomber sur ses pattes avant... Vous savez, n'importe qui doit être pour rétablir des situations, pour comprendre les choses de la vie. Je pense que quelqu'un a besoin d'être avant tout en connexion avec lui-même et être bien.
Complètement.
Tant que ça ne sera pas le cas, il aura peut-être beaucoup moins de place à vous accorder, mais ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Hein ?
Non, ça j'en doute pas. Bon. Voilà, mais c'était ça, voilà.
Et ben c'était bien de papoter ensemble, non ?
Oui, je trouve.
Ça vous a fait du bien ?
Oui.
Et ben super.
Quand vos chemins vous mèneront vers Cahors.
Bah écoutez, pourquoi pas ? Ils m'y ont déjà mené. Hein. J'ai déjà tourné à Cahors. Je connais Cahors.
Ouais.
Oui. Ouais. Mais c'est une bien belle région. En tout cas, on vous embrasse bien fort, Catherine.
Merci.
Et puis, vous connaissez le chemin maintenant, donc quand vous avez envie, vous revenez nous voir, d'accord ?
Mais déjà au décès de mon premier frère, vous m'aviez aidé, Olivier.
D'accord, ok, très bien.
Voilà.
Mais écoutez, tant mieux. Je suis là, nous sommes là, nous ne bougeons pas. Et Europe 1, vous savez, depuis la nuit des temps, assure cette libre antenne. Donc vous savez qu'ici, on est là pour vous écouter.
Entendu, merci.
Bonsoir, Catherine.
Bonsoir, au revoir.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Il est à 23h35 sur Europe 1 et nous accueillons Ludovic sur la libre antenne. Bonsoir Ludovic.
Bonsoir, vous allez bien ?
Ça va et vous Ludovic ?
Écoutez, ça va, je suis ravi d'être avec vous.
Très bien, moi aussi.
Merci.
Quel âge avez-vous Ludovic ?
Alors j'ai 47 ans.
D'accord.
Et je suis dans la région de l'Essonne.
De l'Essonne, région parisienne, donc.
Exactement.
De quoi allez-vous nous parler, Ludovic ?
Alors, moi, ça va être très très simple. Hein. Je vais vous parler de la planète.
Mm-hmm.
Vous savez, la planète, on en a qu'une, on n'en a pas deux. Et c'est mon combat. Moi, je suis missionné, en fait, pour la propreté.
C'est-à-dire missionné pour la propreté ?
Pour la rendre propre.
D'accord.
Parce qu'on fait de quoi ?
Mm-hmm.
Comment vous dire ça ? Déjà, au niveau professionnel, ça fait déjà 5 ans que moi, je travaille en tant qu'éboueur.
Oui.
Ça passe vite. Hein.
5 ans, oui, ça passe vite.
Déjà 5 ans, oui.
Mm-hmm.
Et donc, je travaille pour moi, à mes yeux, hein, pour la plus belle capitale du monde, qui est Paris.
Mm-hmm. Vous devez en voir quand même... Parce que moi, j'en vois déjà en scooter. Vous devez en voir des gens qui salissent cette belle capitale.
Ouais, ouais, on voit beaucoup de choses. Et que ce soit du plus petit déchet au plus gros déchet, au déchet le plus dangereux aussi.
Mmh.
C'est impressionnant, vraiment.
Qu'est-ce qui vous impressionne ? Je vous dirais, moi, ce qui m'impressionne et qui pourrait vraiment être évité si tout le monde prenait... vraiment le soin de d'apprendre certains gestes, hein, pour éviter de salir. Mais qu'est-ce qui vous choque le plus, vous ?
Alors moi, ce qui me choque, c'est il y a deux choses. C'est déjà quand je trouve une seringue, ça, je me dis c'est pas possible qu'on puisse trouver une seringue comme ça dans peu importe la rue, peu importe de toute façon la ville, hein, de toute façon. Ça me choque beaucoup.
Mmh.
Et la selle humaine aussi, hein. Ça me choque pas mal.
Oui.
Incroyable, alors que y a pas mal de toilettes publiques qui maintenant sont gratuites dans Paris.
Mmh.
On ne devrait pas trouver ce genre de choses dans nos rues.
Bon, mais je vais vous dire, bon, pour les selles humaines, ça se... Vous voyez ce que je veux dire ? Ça se détruit, c'est... Comment dit-on ? Ça se...
Ça se détériore...
Oui, enfin, voilà, ça retourne à la poussière. Moi, ce qui me choque, ouais, le plus, je vais vous dire, ce sont les chewing-gums, ce sont les mégots, ouais, de cigarettes.
Ouais.
C'est... les gens jettent leurs mégots de cigarettes.
Ouais, complètement.
Je fume, hein, je fume. Et je peux vous dire que je suis allé dans des pays où... j'ai pris le pli de ne plus jeter mon mégot, et on le prend très vite. Le mettre dans sa poche, alors bien évidemment, ça peut sentir un petit peu... Donc, une petite boîte ou un cendrier, vous savez, portable. Mais voilà, je trouve qu'on peut vite apprendre ça, et ça devient un réflexe. En fait, le réflexe qu'on a, très vite, c'est au moment où on va acheter son mégot, on a pris l'habitude de ne pas le jeter. Alors, c'est l'histoire d'un mois au Costa Rica, bien là, pendant un mois. Il y a plein de choses auxquelles vous faites attention. On ne jette rien par terre. On fait attention au moindre déchet. Et je vous jure qu'on s'habitue à ça. Donc, est-ce que vous, en tant qu'éboueur, vous faites quoi, en fait ? Vous êtes sur les camions, vous balayez, que faites-vous exactement ?
Excusez-moi, pardon, je suis un peu
vous
malade.
En prie. Excusez-moi.
Alors du coup, moi je suis les deux, hein. Je passe le balai et je suis aussi au camion. Et je voulais juste préciser qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de mégots au sol qu'il y a d'êtres humains sur notre planète. C'est impressionnant quand on y pense. Un mégot,
oui,
ça pollue 500 litres d'eau, ça représente 5 baignoires.
Mmh. Vous voyez.
Un seul petit mégot. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut se réveiller. Et puis, ben, on va aller acheter un cendrier poche. On va bien écraser sa cigarette et mettre son mégot à la poubelle, bien éteint, bien évidemment. Parce qu'il faut savoir aussi que souvent, on éteint juste un tout petit peu le mégot. Et du coup, on va mettre le mégot dans la poubelle, mais la poubelle va cramer.
Voilà.
Et là, on va appeler les pompiers, etc. Alors que les pompiers, ils ont bien autre chose à faire. voyez. Enfin bon, voilà, ça enchaîne tout un tas de choses comme ça. Donc, moi, je suis au balai et je suis aussi derrière le camion.
D'accord.
Je suis ripper, donc je suis balayeur-ripper.
Balayeur-ripper, d'accord.
Ouais, ouais, ouais. Et moi, je me régale. Hein. Je suis persuadé que je suis plus heureux des éboueurs dans le monde et même dans l'univers, on va dire.
Très bien, super. Vous avez deux particularités. En plus d'être ripper et balayeur, vous êtes une star sur TikTok. Vous remportez beaucoup de succès avec 287 000 abonnés et plus de 4 millions de likes. Que mettez-vous sur ce réseau social TikTok, sur votre page? Vous produisez des vidéos? Que faites-vous?
Alors, en fait, le réseau TikTok, il touche une génération, de, on va dire, de, une moyenne, hein, de 13 à 35 ans. Et ben moi, qu'est-ce que je mets sur qu'est-ce que je fais comme vidéo? Je fais, j'essaie d'utiliser un petit peu le comique en étant ludique, le jeter à la poubelle, montrer aussi les incivilités des uns et des autres pour que cela cesse. En fait, pour montrer aussi l'utilité du métier des boueurs, parce qu'on a tendance à nous mettre de côté et à nous oublier. Et limite aussi à nous cracher dessus. Hein,
à vous maîtriser un peu, ouais.
C'est ce qui m'est arrivé à moi. Hein, la première année, on m'a craché dessus. Hein. Je m'en suis toujours pas remis. Hein, ça fait déjà 5 ans, mais je m'en suis toujours pas remis. Je n'ai toujours pas compris. Voilà, donc sur TikTok, je mets tout ça. Ben j'essaie de transmettre le message en étant ludique, en étant rigolo aussi, parce que je pense que ça passe mieux. Et c'est vrai, on a tendance peut-être à penser que je fais tout le temps la même chose, mais elles sont faites différemment. Donc du coup, le message passe différemment aussi. Mais c'est toujours le même message, jetons à la poubelle pour une planète propre. Vous voyez ? Voilà. Donc en fait, moi, que ce soit professionnellement parlant ou que ce soit dans ma vie privée, il n'y a pas un jour où je ne ramasse pas un déchet. Tous les jours, mais tous les jours, et je ferai ça jusqu'à mon dernier souffle.
Et vous vous adressez en plus, je trouve, sur TikTok, à une génération, donc à une jeunesse, moi, que je trouve beaucoup plus consciente du problème de ces comportements inciviques, hein, incivils et inciviques.
Qui
est beaucoup plus consciente hein, de sauver la planète. Vous le remarquez, ça, ou pas?
Alors, tout à fait. Alors, vous savez, ce matin, j'ai rattaqué mes sensibilisations dans les collèges.
Oui.
Et, donc, pendant 2 heures, de 8h à 10h, les élèves découvrent des métiers. Donc, moi, j'ai la chance de présenter mon métier et en faisant découvrir mon métier avec des indices et en arrivant... avant qu'ils arrivent, pardon, les élèves, je souille la salle, je fais exprès de mettre des papiers, des bouteilles, etc., pour voir leur réaction. Et il est vrai qu'ils se baissent pour ramasser les papiers et les mettre dans la poubelle. Contrairement à nous, les adultes, on va passer à côté, on va limite shooter le déchet, mais on va pas le mettre à la poubelle, vous voyez. Et en plus, ils les mettent dans la bonne poubelle.
Ils les mettent dans la bonne poubelle, donc les tris.
Voilà, exactement, dans les classes, il y a deux poubelles. Il y a la poubelle avec le sachet noir et la poubelle avec le sachet jaune.
Alors, avant de nettoyer les rues, Ludovic,
oui.
Vous avez eu une vie particulière et je dirais pas facile. Je dis ça parce que la passion qui est la vôtre aujourd'hui, qui est votre métier, j'ai l'impression que c'est avoir pris votre place dans la société et contribuer à ce que cette société soit... meilleur, hein, propre, ça vient un peu de votre passé, parce que
oui.
J'aimerais bien que vous me parliez de ce passé, vous avez été en famille d'accueil, vous avez été dans la rue, et que vous me racontiez comment vous en êtes sorti de la rue.
Alors, en fait, j'ai l'impression que je suis redevable à vie à toutes les personnes qui ont pu croiser mon chemin à cette période où quand j'étais dans une famille d'accueil, quand j'étais SDF, Ouais, ça a été des moments très difficiles, mais j'ai rencontré des personnes incroyables et qui m'ont mis sur un piédestal en fait. Et c'est ça qui m'a aidé. Et c'est ce fil conducteur que l'on appelle la vie en trois lettres. Ce mot la vie, c'est ça qui m'a aidé. Et c'est grâce à ce mot que j'en suis là maintenant en fait. Et oui, ça a été ultra compliqué quand la famille d'accueil, par exemple, je prends un exemple tout simple, on fait une petite bêtise qu'on fait quand on est gamin, ben, ils me mettaient dans la tour aux cochons, ils m'enfermaient avec les cochons. Moi, je m'en suis fait des amis avec ces cochons, en fait. J'ai appris comment ils vivaient, les cochons. Et les cochons, ils sont beaucoup plus propres que les êtres humains. Ils ont un côté pour manger, un côté pour boire, un côté pour dormir, un côté pour faire leurs besoins. Voyez, donc ils pensaient que moi me faire du mal, et finalement non, je faisais pas du mal. Voilà, donc ça c'est un souvenir que j'ai. Et ensuite, quand j'étais à la rue, je dormais sur mes chaussures tellement j'avais peur que de marcher pieds nus. Par exemple, je piquais la pelure d'oignon, c'est la bouteille, c'est du vin en fait, pour faire de la cuisine, pour cuisiner. Moi, je buvais ça, en fait. C'est un torboyau, hein. Et j'aurais pu partir aussi dans la drogue. Mais non. Tous ces gens que j'ai rencontrés, ils m'ont appris justement à tenir et à croire en moi. Et voilà. Maintenant, je suis Ludovic Franceschet et je suis devenu quelqu'un qui agit dans la propreté. Avant, je n'étais rien. Avant, j'étais une sous-merde. Maintenant, je suis Ludovic Franceschet. Et j'en suis très fier de cette personne-là, vraiment.
Vous pouvez, mon cher. Vous avez été à la rue jusqu'au jour où vous avez croisé quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous. Racontez-moi comment tout ça s'est passé.
Alors, il y a plusieurs personnes. Il y a Mimi qui a énormément compté pour moi. Mimi, en fait, c'est un travesti qui m'a dit « Écoute, Ludo, est-ce que tu veux venir avec moi ? On va aller dans un restaurant qui s'appelle 49 et à Pigalle. » Je dis « Écoute, on y va. » Et voilà, j'ai rencontré cette fameuse Mimi. J'ai réclamé c'était un restaurant et j'ai demandé une raclette. Elle m'a jamais servi la raclette.
Pourquoi ?
Oh, parce que à chaque fois, elle avait plus de fromage, ou alors elle avait plus de viande, ou alors il y avait quelque chose. Mais j'ai toujours mangé chez Mimi, mais jamais la raclette.
Il y a votre prof de français aussi.
Oui, et ma prof de français quand j'étais à la rue. Ouais, ma prof de français. Alors ça, c'était à Valence. C'était à Valence. Et j'étais assis, et vois cette dame, là, je m'aperçois que c'est ma prof de français. Et là, elle me dit, mais dis donc, qu'est-ce que tu fous là ? Et elle me tend un billet de 50 francs. Je refuse l'argent, et je prends sa valise, et je l'accompagne au train. Et là, il s'est passé beaucoup de choses dans ma tête. Je me dis, mon Dieu, là, elle a vu que finalement, ce qu'elle m'a appris, ça ne m'a pas servi. Pour moi, c'était un échec, en fait. Pour elle, j'étais un échec. Et je me suis dit, il ne faut pas que je sois un échec.
Vous êtes sûr que vous étiez un échec ? Moi, je pense qu'elle a été surprise de vous voir là. Elle ne s'y attendait pas. Mais peut-être que ça a été un choc pour elle plutôt, parce qu'elle vous voyait sans doute ailleurs, vu qu'elle vous connaissait et qu'elle connaissait votre nature, votre personnalité avant en tant qu'élève. Bon, mais vous l'avez... Ça a fait un déclic, vous,
visiblement. Ah oui, complètement. Ah, complètement. Complètement, ça m'a... Ah ouais, c'était impressionnant. Et mais en fait, je la remercie... Ce moment-là, je remercie qu'il soit dans ma vie, en fait. Vous voyez ? C'est grâce à des moments comme celui-ci, et ce moment, en l'occurrence, c'est grâce à ces moments-là que je suis, en fait, maintenant. Vous voyez ? Je peux vous dire que ça forge une personne, quand même. Franchement.
Je me doute.
Et après, il y a une autre personne aussi que j'ai rencontrée, qui s'appelle Norbert. On l'appelait la champouineuse du ministère.
Pourquoi ça ?
Parce qu'il avait les cheveux en pétard et toujours en costard, très bien apprêté. très très bien dans son langage. Et puis c'était le surnom qu'on lui avait donné. Pareil, hein, il a souffert aussi avec moi, ce monsieur. Hein. Mais au final, on a eu du bon temps aussi. Énormément, heureusement que j'ai croisé cette personne-là. Vous voyez ? Donc, toutes ces rencontres-là, franchement, je suis plus heureux du monde de les avoir eues dans ma vie.
Mmh. Alors, vous avez écrit un bouquin ?
Oui, tout à fait.
Plus tard, tu seras balayeur.
Non, plus tard, tu seras éboueur.
Ah, moi, j'avais tu seras balayeur. Donc, plus tard, tu seras éboueur aux éditions City.
Exactement.
Qu'est-ce que vous racontez dans ce bouquin ? Sans dévoiler parce qu'il faut que les gens l'achètent ensuite.
Exactement. Donc, il a été coécrit avec Isabelle Millet, je tiens à préciser, parce que sans elle, il n'aurait pas existé. Et elle a une plume juste incroyable. Et ensuite, on y trouve ma vie, on y trouve mon métier que j'aime tant, éboueur. On a toutes les clés pour devenir un bon éboueur et la propreté de la planète, parce que je fais énormément d'actions dans ma vie privée. Par exemple, ça fait plus de 2 ans que je n'ai pas pris de vacances. À chaque fois, je vais dépolluer quelque part, ou alors je fais des défis. Et du coup, voilà, tout ça, c'est raconté dans le bouquin.
Comment vous connaissez Isabelle Millet ? Parce que je ne sais pas si vous savez, mais elle était notre collaboratrice. C'est elle qui présentait l'info la première année où je suis arrivé sur la libre antenne d'Europe 1. Et elle est journaliste à Europe 1, vous le savez ? Vous le saviez ?
Elle était journaliste, tout à fait, mais je ne savais pas quelle radio, mais je pense qu'elle me l'avait dit, mais j'ai dû l'oublier.
D'accord.
Et en fait, comment on s'est rencontré ? C'est une autre personne, c'est un chroniqueur de chez RTL, qui lui m'a repéré. Alors je pense, sur Twitter, il a regardé mes vidéos, etc. Il m'a proposé le projet du bouquin. Et ensuite, il m'a dit, écoute, je vais te faire connaître une biographe et je vais vous faire rencontrer et vous verrez à partir de là.
Ah bah voilà.
Et
on s'est rencontré.
Voilà. Et ça a matché tout de suite.
Et vous voyez, tout le monde pense qu'entre les stations, on s'aime pas, on se tire la bourre et en fin de compte, pas du tout. Vous voyez, c'en est l'exemple. C'est un journaliste d'RTL qui vous a présenté une journaliste d'Europe 1.
Exactement.
La grande famille de la radio, vous voyez ?
Exactement.
Eh ben écoutez, c'est super. Je rappelle donc, mon cher Ludovic, que vous êtes dans l'Essonne, Reaper. On vous croise
on
où exactement
ville,
bah oui, il faut le dire parce que les gens vont vous saluer au moins.
Moi, je suis à Étampes.
À Étampes, d'accord.
Oui. Je suis au fin fond du RERC.
D'accord. Donc, écoutez, si vous êtes du côté d'Étampes, si vous habitez Étampes, soyez attentifs. Vous croiserez peut-être Ludovic. Vous avez un signe reconnaissable ou pas ?
Ah oui, mais non, je suis toujours en bob. Je mets toujours un bob.
D'accord. Bon, voilà, si vous croisez quelqu'un qui a un bob, Reaper, derrière un beau camion vert, c'est notre Ludovic qui est donc l'auteur d'un livre qui s'appelle « Plus tard, tu seras éboueur » aux éditions City. On mettra bien évidemment les références de votre bouquin sur notre site internet. Et puis, merci pour votre joli témoignage et votre énergie, votre belle énergie, mon cher Ludo.
Est-ce que je peux citer mon pseudo pour les réseaux ?
Ah bien évidemment.
Alors, si vous voulez me trouver sur les réseaux sociaux, donc TikTok, Twitter et Instagram, c'est Ludovic S-off.
Très bien. Eh bien, écoutez, on ira faire, nous, un tour, et puis on va relayer et partager sur notre page Facebook, d'accord ?
Merci beaucoup.
Je vous en prie, et merci pour votre belle énergie, encore une fois. Je vous embrasse, au revoir.
Merci beaucoup, et prenez soin de vous, et continuez ce que vous faites.
Merci, au revoir. Il est minuit passé de 3 minutes, cela veut dire que nous sommes jeudi, chers amis. Je vous souhaite une bonne journée, mais la plupart d'entre vous vont faire de beaux rêves d'ici une heure, voire une heure et demie, peut-être que certaines et certains d'entre vous sont en train de rejoindre les bras de Morphée, comme dirait Julia. Donc, nous vous souhaitons une bonne nuit. Pour celles et ceux qui restent, nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez continuer à composer le 39-21. Bien évidemment, pour le moment, nous sommes avec Corinne et Jean-Daniel, son mari, leur fils Kyle. C'est... On n'en était pas encore là, vous nous l'avez dit, Jean-Daniel, votre fils Kyle, donc vous le retrouvez, vous retrouvez sa trace près de la Légion étrangère, ou que se passe-t-il exactement ?
Écoutez, comme j'ai été militaire, je connaissais, on appelait en service militaire, c'était assez facile pour moi de connaître un peu l'esprit militaire, donc j'avais donné une clé du whisky aux légionnaires de façon à ce que je puisse parler à mon fils.
Oui.
Et je retrouve devant la grille, c'était trop tard. Bref, ma femme apprend qu'il monte à Paris, un policier arrive sur la gare de Lyon, et c'est là où Kyle se confie sur son viol. Après, le recruteur de la Légion étrangère avait lui-même eu une femme violée, donc il a laissé repartir mon fils. Et après, c'était extrêmement compliqué. Mais je crois que ma femme veut vous parler. Donc, je vais laisser ma femme reprendre.
Corinne, je vous écoute. Corinne ? Êtes-vous là, Corinne ?
Oui, vous m'entendez ?
Là, je vous entends, oui.
Voilà.
Ce que je voulais, avant que vous interveniez, en fait, il vous fait part de ce viol et du malaise qui est le sien, en fait, qu'il n'arrive pas à surmonter les choses tout de suite.
Alors, en fait, il s'est confié, parce que ma belle-sœur qui habite sur Paris, qui nous a beaucoup aidés, en fait, à qui j'ai expliqué que mon fils était dans le train pour la Légion étrangère, et à qui a une grande force de conviction, a persuadé, en fait, la police Paris-Gare de Lyon d'intervenir pour l'interpeller, puisqu'il y avait une main courante pour disparition inquiétante, pour l'interpeller et puis essayer de voir ce qui se passait. Et en fait, c'est à ce moment-là que mon fils s'est confié à une personne de la police, au capitaine de police, en lui disant qu'il avait été violé. Donc j'ai appris ça, moi, j'étais dans le train qui suivait le train de juste derrière, je montais le retrouver. Et vu que mon fils ne voulait pas porter plainte puisqu'il avait honte, il avait peur.
Il avait peur de quoi ?
Il avait peur de cette personne. Il avait peur de ce que cette personne pourrait faire à son entourage.
Pourquoi ? Parce que votre fils vous parle du profil de cet homme ?
En fait, on a très vite compris parce qu'on a eu beaucoup d'informations par la suite, en fait.
Oui.
Parce que moi, je suis partie à la Légion étrangère. Du coup, j'ai fait le pied de grue pendant une demi-heure pour parler au major. Qui au début ne voulait pas me recevoir. J'avais pris le numéro de téléphone de ce capitaine de police en lui disant « Écoutez, appelez et vous verrez bien que la place de mon fils n'est pas ici. » Donc il l'a appelé, effectivement, le capitaine de police a confirmé ce que Kyle lui avait confié. Et donc j'ai réussi à faire sortir Kyle de la Légion étrangère. Il a été hospitalisé à ce moment-là en unité de prévention pour le suicide, puisqu'il a clairement émis l'intention de se suicider. Donc là, s'en sont suivis des hospitalisations sous contrainte, ce qui est très difficile à vivre pour des parents, parce
qu'en fait,
votre enfant se retourne complètement contre vous, il ne comprend pas ce que vous faites. Donc ça a duré un petit moment. Il nous a expliqué effectivement qu'il avait coupé tout contact avec cette personne, puisqu'on a bien fini par savoir qui c'était. C'est d'ailleurs dramatique dans les salles de sport qu'il y ait des prédateurs comme ça qui tournent autour des
hommes. Qui était cet homme, sans donner son nom ?
Alors, sans le nommer, en fait, c'était un abonné de la salle de sport, d'une salle de sport L'Appart à Lyon, et qui, en fait, tournait un petit peu autour de tous les gamins. Donc, quand Kyle racontait à ses copains de promo qu'il avait un pote, qu'il le coachait, etc., tous ses copains se moquaient de lui en disant « Méfie-toi, parce que c'est quand même pas normal qu'un type de 40 ans tourne autour de toi. » Et mon fils était très naïf. Et voilà, donc il a rien vu venir. Et petit à petit, il a fait en sorte de devenir, on va dire, pas un ami, mais de sympathiser avec lui, d'aller boire une bière une fois de temps en temps, d'aller manger une pizza, jusqu'au jour où il l'a tiré chez lui, il l'a drogué et puis il l'a violé. Donc de là, on a su par la suite, avec l'hôpital psychiatrique, il a développé un état de stress post-traumatique, qui est toutes les victimes de viol développent un état de stress post-traumatique. Et il a essayé à deux reprises de mettre fin à ses jours, et la troisième fois, il a réussi, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on se bat pour libérer la parole, parce que c'est un peu le triple tabou. Le viol d'un homme, c'est quand vous en parlez autour de vous, c'est quelque chose, ça n'existe pas, un homme ne peut pas.
On en parle sur cette antenne, Corinne, on l'a évoqué souvent.
Voilà, donc, c'est quelque chose qui est... Voilà.
C'est vrai que vous avez raison de dire que...
Autour de moi, en tout cas,
oui.
Quand j'en ai parlé autour de moi, j'ai eu des réactions assez inattendues.
Oui, et vous avez raison de le dire, parce qu'on parle généralement du viol, et on en parle beaucoup ici, mais on sait que ça représente 15% des agressions. Donc, avec l'image qui accompagne le viol, qu'un homme, c'est pas possible. Mais bien sûr que si, c'est possible.
C'est ça. Après, c'est tout aussi dramatique pour une femme que pour un homme.
Complètement, complètement.
On est bien d'accord. Mais effectivement, on a cette image de se dire que ça n'arrive pas aux hommes ou qu'il était consentant ou que, enfin, je ne sais quoi. Donc il y a voilà, le viol d'un homme, j'ai envie de dire. Le suicide est un sujet très tabou aussi. Et puis la perte d'un enfant, qui n'est pas un sujet dont on discute aisément non plus. Donc c'est vrai qu'avec ces trois sujets-là, on a pris le parti avec mon mari d'en parler, de libérer la parole là-dessus, parce que je pense qu'il faut en parler.
Et vous avez bien raison d'en parler, Corinne, car je crois savoir qu'aujourd'hui, l'agresseur de votre fils n'a pas été inquiété, que, et vous allez nous le raconter, que le juge vous a convoqué pour... après que vous ayez porté plainte, vous avez porté plainte au nom de Kyle.
Alors on a porté plainte, voilà, on a porté. Alors un autre nom à nous, mais pour le viol de notre fils,
oui.
Qui ayant entraîné la mort.
Mais est-ce que ça n'était pas que compliqué ça juridiquement?
Alors non, parce qu'en fait, on était très très bien entouré. On avait un très très bon avocat. On avait un très très bon avocat là-dessus qui nous a suivis, qui a défendu les victimes de viol dans l'affaire du père Prégnat. Donc c'est quelqu'un qui connaît son sujet. Donc on a déposé, nous, une plainte 15 jours après le décès de Kyle, et pas contre X, hein, bien contre la personne en question. Il a été en garde à vue pendant 4 heures. Au terme des 4 heures, on nous a dit « Oui, mais votre fils a bien été évolué, mais on ne peut pas prouver que c'est lui ». Voilà ce qu'on nous a répondu.
Oui.
On a pris le téléphone de Kyle pour essayer de récupérer des données.
Oui,
le
des SMS.
Il a été rendu cassé, voilà, inexploitable.
Qui l'a cassé?
La police scientifique.
Bah, sympa, voilà. Super.
Voilà, sympa. Ouais. Donc on n'a rien pu en faire après, puisque le téléphone, en fait, hein, il était totalement inexploitable. Donc c'est pas les experts, hein, loin de là. Donc voilà, et puis, voyant que ça ne bougeait pas, en janvier, on s'est constitué partie civile pour pouvoir avoir accès au dossier, janvier 2019. En janvier 2020, un an après, avec de multiples relances, on a reçu un courrier du juge qui nous convoquait pour une première audition des parties civiles. Et il se trouve qu'en fait, quand on s'est présenté, le juge nous a dit, la première chose qu'il nous a dit, c'est voilà, je vous ai convoqué parce que j'ai décidé de prononcer un non-lieu. Donc l'audition, en fait, il n'y avait aucune audition.
Mm-hmm.
Donc ça a été, donc il n'y a pas eu d'ouverture de SMS, il n'y a pas eu de géolocalisation. Enfin, rien n'a été. On a demandé une expertise contradictoire de psychiatre pour cette personne, ça a été refusé.
On parle là, vous qui nous écoutez, aux quatre coins de la France, on évoque souvent sur cette antenne des disparitions inquiétantes. On évoque souvent des meurtres non élucidés. On a là, à travers l'histoire que Jean-Daniel et Corinne nous racontent ce soir, bien évidemment, un drame qui est la mort de cet enfant de 19 ans qui avait la vie devant lui. Mais au-delà de ça, chers amis, on a une justice qui a prononcé un non-lieu face à un prédateur. Un prédateur qui, si il ose mettre du GHB dans un verre et droguer un jeune homme et le violer, peut-être a déjà tué, peut-être tuera. Et ça veut dire que là, en fait, il est libre, qu'il n'a pas été inquiété et que c'est... Mais totalement, on marche sur la tête encore une fois.
Tout à fait.
Cet homme, vous avez son identité.
Oui. Oui, il y a une plateforme qui existe, je tiens à le préciser pour les auditeurs. Il y a une plateforme qui existe qui s'appelle coabuse.fr.
D'accord. On peut trouver l'identité de cet homme ?
Alors, il suffit en fait, si vous avez fait l'objet d'une agression sexuelle ou d'un viol, vous pouvez ouvrir un formulaire sur cette plateforme,
oui,
en déposant le nom vraiment de la personne, puisque 90% des viols et des agressions sont commises par des récidivistes, faut le savoir.
D'accord.
Donc voilà, on peut déposer, et en fait aujourd'hui il y a 5000 formulaires qui ont été déposés sur cette plateforme, et ça permet de matcher en fait des victimes qui ont un agresseur commun.
D'accord.
Et ce qui leur permet ensuite de se réunir s'il y a besoin de, voilà, si elles veulent porter plainte ensemble, puisque c'est quand même plus facile de le faire ensemble.
Est-ce que le nom de cet homme a matché avec d'autres formulaires sur cette plateforme?
Bah, pour le moment, je l'ai fait que récemment, puisque j'ai découvert en fait cette plateforme moi très récemment.
Oui.
Voilà, je pense que Kyle n'était pas son premier, Kyle ne sera pas son dernier.
Mais bien évidemment.
Malheureusement.
Bien évidemment.
Voilà. Et c'est surtout pour ça qu'on veut parler, quoi.
Pour faire une chose pareille, il faut être, vous savez, pour trouver du GHB déjà. Moi, je ne sais pas où on trouve du GHB.
Ben moi non plus.
Vous savez,
moi non
voilà. Plus, ouais, pour trouver du GHB, il faut chercher. Il faut donc c'est de la préméditation. C'est vraiment faire ça. Il faut être un tordu dans l'âme pour faire ça. Donc bien évidemment que Kyle ne devait pas être sa première victime et que si il était sa première victime, il y en a peut-être eu d'autres ou il y en aura d'autres. Parce que si ce monsieur a été inquiété 4 heures en garde à vue, ça lui a peut-être un peu chauffé aux fesses et il s'est peut-être calmé. En ce moment,
c'est ce qu'on espère. On se dit.
J'aimerais, Corinne, parler pour toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir d'une série qu'il y a en ce moment sur Netflix qui est consacrée à Jeff Dahmer, qui est un tueur en série qui a pris la vie de 16 ou 17 jeunes Américains. Et on voit dans cette série combien cet homme a pu tuer en toute impunité avec une police qui, comme pour votre affaire, hein, et une justice, a considéré qu'il n'y avait pas assez de preuves, qu'il n'y avait pas... Il y a quand même un jeune homme qui s'est suicidé là, qui a dit qu'il avait été violé. Qui a échangé avec ses copains sur un copain qui l'aidait soi-disant, qu'il coachait dans une salle de sport. Il n'y a pas assez de faits, comme on dit, de faits, je ne sais plus, de faisceaux.
Ah ben non, mais ils veulent de preuves, parce que les faisceaux de preuves ne sont pas suffisants.
Ben oui, mais donc, c'est notre problème en France.
La présomption d'innocence en France, elle va très très loin. Et les criminels agissent en toute impunité et ils savent qu'ils ne vont pas être inquiétés. Et c'est ça qui est dramatique.
C'est dingue.
Et alors le comble, j'ai presque envie de dire, parce qu'alors Kyle avait horreur de l'injustice, c'était ce qui le caractérisait le plus. Donc je me dis, c'est...
Mais Kyle avait horreur de l'injustice, mais est-ce qu'il n'a pas été témoin de tout ça, en fait la seule injustice qu'il ait sans doute vécue, c'est cet internement qu'il a sans doute pris pour de l'injustice alors que vous le faisiez pour le protéger. Mais vous vous êtes renseigné sur cet homme ? Quel profil a-t-il, cet homme ?
Oui.
Parce que j'étais en train de penser, moi, Jean-Daniel, il me serait arrivé un truc pareil. Mais je vous dis pas ce que j'aurais fait.
Olivier, je vais te dire, quand je l'ai appris, j'ai sauté dans ma voiture, je voulais régler ça par eux, et j'ai foncé vers la salle de sport. Donc mon idée, j'avais une arme très puissante avec moi, c'était une haine absolue. Et ma sœur et ma femme m'ont appelé pour me faire retomber en fait. Parce que de la barbarie, super, je l'aurais tué, mais je pense que dans notre pays, on a un problème plus profond et mon fils est déjà mort. J'avais déjà été au commissariat en voulant porter plainte. Et à juste titre, et le prédateur était assez malin, ils m'ont dit « Non, il est majeur, il avait 18 ans et demi. » Donc je me suis bien renseigné là-dessus, c'est comme ça que j'ai retrouvé son nom, parce que Kyle m'avait raconté, une fois en pleurant, dans sa chambre, par deux fois, il m'a raconté la scène, assez horrible, allongé, sans pouvoir bouger.
Mais oui, oui.
Je vais vous passer les détails. La deuxième fois, j'allais le voir tous les jours, quand il était dans cette unité anti-suicide, où j'ai appris beaucoup de choses, vraiment une nouvelle unité anti-suicide. Et il m'a dit, mais papa, tu ne comprends pas. Pour moi, la vie d'adulte, c'est se faire violer par un homme que je pensais être un ami. Et s'il s'était raccroché, parce qu'après, il avait repris ses études, l'école avait été très gentille avec nous, donc il était passé en SP, c'est parce qu'il a rencontré la femme de sa vie, oui, on peut dire la femme de sa vie, dans cet hôpital. Et il avait décidé de se battre pour pouvoir vivre avec elle.
Oui.
Et il a fait deux mois et demi. Et après, il en a décidé autrement. Mais ce qui est vraiment important, c'est que cette histoire, pour discuter avec des parents endeuillés, et je te remercie de ton aparté de tout à l'heure, parce que c'est exactement ça le problème, c'est que cette histoire, elle se répète. C'est ça qui est insupportable.
Mais bien sûr,
Et moi, ce que je voudrais, c'est pas tellement qu'on fasse une énième commission Théodule ou qu'on fasse un brainstorming creux, mais simplement regarder ce qui se passe dans d'autres pays. Regardons ce qui se passe en Espagne, Regardons ce qui se passe en Angleterre. Regardons ce qui se passe aux US. Il y a des choses à apprendre. C'est pas parce que c'est notre justice que c'est la meilleure justice du monde. On est beaucoup trop nombristes et ça détruit énormément, notamment des jeunes, ce qui fait le plus mal.
Bien sûr.
Voilà. Alors, son profil, oui, c'est un. Je connais bien. En plus, avec. J'ai eu accès par l'avocat à tout le dossier. Donc, j'ai tous les éléments. Mais pour moi, ce qui est important, c'est. Je ne veux pas faire justice moi-même parce que sinon. Je deviens le même barbare que lui.
Oui.
Et ce n'est qu'un prédateur parmi les autres. Ce qui est important, c'est de tenter de faire avancer cette justice. Vraiment, il y a des exemples à prendre pour essayer de réduire leur impact. Il y en aura toujours. Mais là, ils font ça quasiment en plein jour. Et ils sont quasiment jamais emmerdés.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander, en fait. Est-ce que, vous qui le connaissez, vous qui savez qui il est, son profil,
ouais.
Il peut recommencer quand il veut, ce mec-là.
Ah oui.
Il n'est pas inquiété par la justice.
Ah, pas du tout.
Pas du tout.
À part le non-lieu. Et encore, j'ai été plus loin, parce que l'immense majorité, c'est des sans-suite. J'ai appris que le non-lieu, c'était moins pourri que sans-suite. Enfin, je ne connais pas le droit, mais c'est ce qu'on m'a expliqué par A plus B.
Ah bon ?
Mais il est libre comme l'air. Oui, parce que sans-suite, en fait, il n'y a rien, il n'y a pas d'enquête. C'est-à-dire que vous êtes tout le total mythomane.
Oui, là, il y a une
et
trace.
Et non-lieu, vous n'êtes que semi-mythomane. Il y a quand même une trace. Ouais. C'est-à-dire que ce qui est inquiétant, si tu veux, c'est si tu es prédateur, tu vas faire tes courses dans une salle de sport ou dans des activités sportives. Ce que me disait le juge, c'est on ne peut pas prouver avec certitude que c'est lui. C'est-à-dire que si tu n'as pas de témoin, si tu n'as pas d'ADN, il est fort probable que tu ne sois jamais emmerdé. Ça, c'est particulièrement insupportable. Pardon, excuse-moi pour la vulgarité.
Non, non, je vous en prie. C'est, j'imagine... Je ne peux pas m'empêcher de penser à votre fils. Cette scène de ne pas pouvoir bouger et d'être là à la merci de ce porc, là.
C'est ce que m'expliquait un médecin. Il me disait, en fait, généralement, parfois, quand on est violé, le cerveau se met en sécurité, comme pour se dissocier du corps.
Bien sûr.
Et avec cette drogue, malheureusement, le cerveau, on ne peut pas bouger. Et le cerveau vit toute la scène. Voilà. C'est ce qui a détruit mon fils.
Vous m'avez dit vous battre aujourd'hui donc pour faire entendre votre voix. À travers quelles actions, au-delà d'essayer d'appeler les médias, comme vous faites ce soir, quels sont vos recours aujourd'hui, en tout cas pour faire entendre votre voix? Parce que vous avez cité Océane et ses parents, qu'on a eu il y a un mois et demi maintenant. Exactement. Cette jeune femme qui a été abusée, violée à trois reprises et qui s'est elle aussi suicidée, avec, je le répète encore, des prédateurs qui sont, comme l'homme qui a violé votre fils, aujourd'hui dehors, tranquilles, et qui peuvent recommencer demain avec vos fils, vos filles, vous qui nous écoutez, vos petits-fils, vos petites-filles.
On est bien d'accord, on est bien d'accord.
Ben oui, parce que c'est la réalité, ça. Ce soir, vous nous parlez de la réalité, qui est notre réalité à tous. Moi, j'ai une fille de 18 ans. J'ai une fille de 18 ans. Quand j'entends ça, je me dis, mais c'est quoi le recours, en fait, si personne ne fait rien pour nous?
Alors, moi, je suis peut-être un grand idéaliste, Olivier, mais je pense qu'il faut en parler. Et je pense que ça peut venir de la base. Parce que j'ai écrit à tous les ministères et compagnie, et j'ai eu de très très belles lettres expliquant qu'ils compatissaient avec moi. Mais à chaque fois, c'était « mais nous, les hommes politiques, à part un homme politique dont vous parlez à ma femme,
député d'Ardèche.
On ne peut rien faire parce qu'il y a séparation de la justice et de la politique. »
Oui, c'est heureusement, normal, mais, heureusement, j'allais vous dire.
Et heureusement, oui. Mais qui contrôle le contrôleur? Parce que là, il y avait des choses énormes. On fait appel et l'autre juge valide le refus. Quoi.
Alors, au nom de quoi? Expliquez-nous pour que nos auditrices et nos auditeurs comprennent bien le côté complètement hirsute de cette justice par moment. Qu'est-ce qu'on vous a dit alors qu'il y avait des faisceaux concordants? Votre fils n'a pas raconté un truc comme ça qu'il a inventé. Il n'a pas raconté ça à ses parents. À la police, visiblement, puisqu'il en a même parlé à la police. Et ils doivent et se baser aussi, sur quoi? Il doit y avoir la trace de l'ADN du mec, du violeur, pour qu'on puisse prouver quoi que ce soit? C'est ça, en fait?
Oui, c'est exactement ça, parce que la présomption d'innocence en France fait que, de toute façon, s'il n'y a pas d'ADN et qu'il n'y a pas de suite un constat par un médecin qui prouve qu'il y a vraiment eu un viol, hein, avec ce que ça implique au niveau des séquelles physiques, il est impossible aujourd'hui de prouver, et alors encore plus quand la victime est décédée. Hein, il y a une méconnaissance totale de l'état de stress post-traumatique. Moi, j'ai suivi une formation pendant 48 heures, justement à Valence, SVS, Stop aux violences sexuelles. Cette formation s'appelle Les Bases, et ça permet de, voilà, c'est dispensé pour des professionnels, et ça permet en fait de comprendre le côté juridique, le côté neurologique, le côté, enfin voilà, il y a tout un panel pendant 48 heures, c'est très intéressant, très dur mais très intéressant. Et en fait, on se rend compte que, voilà, un état de stress post-traumatique, il y a parfois des contradictions, parce que la victime est complètement perdue, il y a de l'hypervigilance, il y a de l'intrusion avec des flashbacks en permanence. Kyle nous disait avoir des flashbacks jour et nuit en permanence, hein. Parfois il sortait la nuit pour aller courir pour faire partir ses flashbacks, et en fait ça aujourd'hui ce n'est pas compris et la justice en particulier ne sait pas comment réagit une victime de viol et ne sait pas l'écouter, ne sait pas l'entendre. Alors il y a bien une procédure qui existe, hein, dans les commissariats, qui s'appelle la procédure Mélanie, et qui est censé en fait faire en sorte qu'il y ait des personnes formées pour accueillir les victimes de viol, mais aujourd'hui il y a la théorie et la pratique, et il se trouve qu'en pratique ce n'est pas le cas. Quand on s'est rapproché de l'association de victimes de viol à Saint-Fons qui s'appelle le MA, la personne nous a dit si vous vous engagez sur un parcours judiciaire, va falloir vous armer parce que c'est très compliqué. Il y a une victime sur 10 qui a un procès aujourd'hui, pour lequel l'auteur est condamné. 1 sur 10. Il y a 93 000 viols en France chaque année. Et il y a 1 000 condamnations. Voilà.
Nous citons régulièrement ce que vous venez de dire, Corinne. Et nous en étonnons régulièrement sur cette libre antenne de ce chiffre incroyable qui traduit quand même... On comprend. Et ce soir, on va ressouligner l'importance de la présomption d'innocence, parce que dans d'autres cas, elle a fait son œuvre, cette présomption d'innocence, et elle le fera encore. Mais là, dans une histoire comme celle-là, on ne doit plus s'appuyer en sachant, si vous voulez, on parle souvent de jurisprudence en justice.
Oui.
Moi, je vais vous parler de jurisprudence humaine. Aujourd'hui, on est capable de tirer une analyse et donc de tirer un enseignement du traumatisme vécu par les personnes violées, hommes ou femmes, qui tentent à nous montrer, mais en pleine lumière, que plus de la moitié des personnes violées ne peuvent pas porter plainte tout de suite tellement elles sont traumatisées, et qu'elles vont laisser passer des semaines, voire des mois, voire parfois des années, avant de révéler le viol. Et ça, c'est intolérable.
Pour les enfants, c'est encore pire avec le déni traumatique. Voilà, on peut ne oublier, quand on a été enfant, qu'on a subi ça, et avoir un réveil traumatique des années plus tard.
Oui.
Donc là aussi, il y a aussi la prescription qui vient jouer. Bon, il a été légèrement modifié pour les personnes mineures, mais pour les personnes majeures, c'est 10 ans la prescription. Bon, ben, 10 ans, il y a des victimes qui ont besoin de plus de 10 ans pour pouvoir parler.
Non, mais alors, je vais vous comparer, vous allez comprendre pourquoi ça me fout en colère. Aujourd'hui, on a plusieurs personnalités médiatiques.
Tout à fait.
Hein, qui voilà. Sont portées au bûcher et qui sont comme lapidées, hein, sur les réseaux sociaux, jugées avant d'être jugées par la justice. Je ne sais pas ce qu'ont fait ces personnes, je ne sais pas si elles l'ont fait ou pas. Par contre, ce que je constate, c'est toute la crédibilité qu'on accorde à ces victimes qui parlent après des années.
Ouais.
Et j'aurais tendance à croire ces victimes. Donc, comment, dans une histoire qui concerne des gens importants et des gens qui ont eu pignon sur rue, qui ont été à la télévision, qui ont même parfois été ministres, comment, d'un seul coup, on accrédite et on ouvre une information et on ouvre une enquête judiciaire, même quand il y a prescription, s'il vous plaît. Mais par contre, quand c'est Kyle, 19 ans, inconnu au bataillon, quand c'est ses parents, Jean-Pierre et Corinne, inconnus au bataillon des citoyens normaux, on s'en fout, en fait.
Ben oui, parce qu'on n'a pas assez de poids, parce qu'on n'est pas assez connu, parce que.
Parce que vous n'êtes personne, c'est finalement, ça. Aux yeux.
C'est ça.
Parce que quand vous comparez, regardez, on va prendre l'exemple de Nicolas Hulot, par exemple.
Oh là là.
Oui, oh là là. Mais on peut comparer les deux affaires, là, ce soir. Il y a un tas de faisceaux concordants pour cet homme-là.
Oui.
Et une crédibilité.
C'est pas une preuve en justice. Voilà.
Oui, mais
les faisceaux concordants,
oui,
c'est pas suffisant.
Alors, mais une crédibilité, quand même, du témoignage des victimes qui a porté la justice française à ouvrir une information judiciaire et une enquête. On l'a entendu, hein, tous. Le procureur a décidé d'ouvrir une enquête. Comment se fait-il que pour Kyle, allez, on fait un non-lieu et vas-y, on te cale ça tranquille. Et Kyle...
Alors je pense que ces victimes, elles sont plusieurs. C'est pour ça que moi je parlais du collectif, de la force du collectif.
Mais bien évidemment.
Que quand vous êtes tout seul et en plus que la personne est décédée, de toute façon, on sait que voilà, ça n'ira pas très loin. Ses pauvres parents, il faut bien qu'ils trouvent un coupable. Enfin voilà.
Le petit, il a rien inventé. Le petit, il a bien nommé son agresseur. C'était un mec chez qui il était allé.
Il faut avoir l'esprit sacrément tordu pour aller inventer un truc pareil quand même. Hein,
mais bien évidemment.
Et puis donner la mort derrière. Hein. Donc, non, c'est sûr que... Mais bon, après, voilà, je sais qu'il y a des tas d'associations, il y a des tas de belles personnes qui se battent pour ça. Quand vous nous demandiez tout à l'heure ce que nous, on faisait, hein, on s'est battu pendant 3 ans. On a un deuxième fils, hein. On s'est battu pendant 3 ans et aujourd'hui, ben, on essaye d'être dans la vie, plus que dans le...
Bien sûr, bien
malheureusement,
sûr,
plus
bien
que
sûr.
Dans le passé, parce que le passé, on ne changera pas. Par contre, voilà, on a notre deuxième fils qui a un avenir, on a envie d'être
non,
dans la
puis,
vie.
Puis alors, je vais vous dire, Corinne, Kyle... Il ne faut pas qu'il soit passé pour rien. Il ne faut pas qu'il ait eu toutes ses souffrances pour rien. Il faut que le passage de Kyle dans cette vie, aussi bref qu'il ait été, serve, pèse son poids. Oui. Et pour ça, ce soir, vous avez raison, et on relaye votre parole, mais on gueule ce soir, on hurle après l'injustice. Il y a un mec à Bordeaux de 40 ans qui a violé un jeune ingénieur, en tout cas un jeune étudiant, et qui continue à faire ses petites pompes et son sport tous les jours.
À Lyon. Ouais.
Est-ce que la salle de sport où il était, ce mec, vous l'avez mis au courant ?
Alors, on a essayé de s'en rapprocher, et puis bon, bah, ils ont même été auditionnés, hein, ils ont été auditionnés, et bon, bah non, pour eux, tout va bien. Donc voilà. Je pense qu'en fait, les gens se protègent. Les gens se protègent beaucoup. Ce qu'on a appris aussi par la suite, quand le non-lieu a été prononcé, c'est que le capitaine à qui Kyle s'est confié aurait dû, puisque la loi l'impose, normalement, dès lors qu'on se confie à une personne de justice, la personne de loi est censée faire suivre le dossier et ouvrir une enquête, ce que cette personne n'a pas fait. Donc, forcément, quand il a été auditionné, eh ben, il a dit qu'il n'avait pas, que Kyle ne lui avait jamais dit qu'il avait été violé.
Bah,
ce qui est faux, puisqu'en plus, il l'a répété au majeur de la Légion étrangère.
Oui, oui.
Donc, voilà. Donc, en fait, on est dans une... Quand on parlait de faisceau de concordance, en fait, on est dans une, j'ai envie de dire, une concordance de personnes qui se complaisent
à protéger
dans leur
petite personne.
Exactement. Et puis, de toute façon, bon, bah, il n'est plus là, donc ça ne sert à rien, quoi, en gros, hein. Voilà, donc non, c'est...
Si c'était à leur fils ou à leur fille que ça arriverait.
Et ce que moi j'ai vraiment cru que les choses allaient changer lorsqu'on a eu notre nouveau ministre de la Justice, et je le dis ouvertement, puisqu'en fait il a été sollicité lors d'une assemblée en fait de commission des lois, c'était en juillet 2020, où on l'a sollicité pour lui dire comment expliquez-vous que sur les 93 victimes de viol chaque année, il n'y ait que 1000 condamnations. C'était le député d'Ardèche hein, qui l'a sollicité à ce moment-là. Et il a paru étonné de ces chiffres. Il a même demandé d'où il sortait, ce à quoi on lui a répondu qu'il sortait justement du ministère de la Justice. Et il a dit, bah, si c'est pas normal, et je vais vérifier, et si c'est le cas, les choses vont changer, croyez-moi. C'était il y a 2 ans, rien n'a changé. Mmh. Voilà. Donc c'est vrai que quand je vois des gens de voilà qui sont un député, c'est quand même quelqu'un pour moi qui a du poids. Et même ces gens-là, ils n'arrivent pas à faire bouger les choses autant qu'il faudrait.
Bah, s'il est tout seul, ça aurait du mal à bouger.
Voilà. C'est toujours voilà, c'est ça. C'est quand on est seul, et ben c'est compliqué.
Non, mais il faudrait demain, comme on voit toutes ces affaires là de paires de claques, des trucs dont on n'a rien à foutre, hein, finalement. Oui. Là, tout le monde se bouge, hein. Tout le monde vient sur les plateaux de télé y aller de son petit commentaire, même si ça sort d'une députée complètement hystérique qui contrôle à moitié ce qu'elle raconte. Là, par contre, là, on va y aller. Mais Kyle, encore une fois, comme Océane,
C'est des sujets qui dérangent.
Mais oui, ce sont des enfants qui ont été violés. Enfin, c'est.
Ouais. Vous
voyez, on a tous grandi, je suppose, vous comme moi, comme plein de gens qui nous écoutent ce soir, dans les règles. On a reçu une éducation. Et on a longtemps, je ne sais pas quel âge vous avez, mais vous avez la cinquantaine, c'est ça ?
48. Bon. Ouais, 48.
Vous avez donc été élevé à un moment, il y a 30 ans, dans un monde où on croyait dans la loi, dans l'uniforme qu'on respectait, dans la loi qu'on savait nous protéger.
On peut même parler de la peur du gendarme.
S'il arrivait quelque chose il y a 30 ans, mais ça n'aurait jamais été comme ça.
Non.
Il y a 30 ans, Kyle aurait été violé, le mec se serait retrouvé au trou.
Oui. Mais entre 2018 et 2019, il y a quand même eu 19% de plus de viols. Enfin, c'est des chiffres qui sont juste hallucinants. Quoi.
Oui,
Il y a de plus en plus de viols et de moins en moins de condamnations. Je me dis, il y a quand même un truc qui tourne pas rond.
Il y a un truc qui tourne pas rond, c'est qu'on n'est plus protégé. Il y a un truc qui tourne pas rond, c'est que les voyous, les prédateurs, on la vit belle.
Ah bah ça, c'est certain.
C'est le triste constat qu'on peut faire. Hier soir, on parlait d'enfants qui ont été abusés. Bon, vous avez été nombreuses et nombreux à réagir sur cette histoire et on va faire certaines vérifications sur cette histoire parce qu'il nous semblait, au bout de ce témoignage, qu'il manquait un élément. Il nous manquait quelque chose dans cette histoire. Mais on a 40, 50 fois, depuis 3 ans que je suis sur cette libre antenne, entendu des personnes abusées, violées, agressées, pour qui il y a eu des non-lieux, ou alors qui ont attendu 4, 5 ans avant qu'il y ait un jugement. Enfin, c'est...
Voilà.
Bah, voilà, vive la France.
C'est ça. Donc, voilà, j'espère que, voilà, s'il y a des personnes qui ont le pouvoir de faire quelque chose et de faire bouger les choses, tous un petit peu, c'est un peu l'histoire du petit colibri, hein, qui apporte un petit peu d'eau, et que tout le monde se moque de lui, mais qui finalement apporte sa contribution, bah, j'espère que ce soir, ça nous aura permis d'apporter.
Mais vous savez, les gens qui peuvent faire bouger les choses, on les connaît. Mais il faudrait qu'il leur arrive directement ou indirectement une affaire comme celle-là. Pour qu'ils prennent conscience de l'état de notre justice, du fonctionnement. Parce qu'on a des beaux textes en France. Hein. Si on les prend dans leur ensemble, on est protégé. Sur le papier, on est protégé.
Sur le papier, voilà.
Mais après, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que c'est pas appliqué. Exactement. Parce que les juges n'ont pas les moyens de les appliquer. Ils n'en ont pas le temps, même. Et toutes ces choses-là sont faites un peu, parfois, à la va-vite.
Ah mais c'est pour ça que je pense pas qu'il y ait un corps de métier en particulier qui soit pointé du doigt hein, ce soir. C'est vraiment un ensemble. C'est tout le maillage judiciaire qui, pour moi, est à revoir.
Oui, et encore une fois, ce ne sont pas les personnes qui sont incriminées, c'est le système. Parce que ce système est en train d'étouffer. On l'évoque souvent ici, les juges croulent sous les dossiers. Ils n'ont plus le temps de traiter les choses. Ils n'ont plus le temps de donner une appréciation profonde. Il faut qu'ils enchaînent. Donc, l'histoire que vous nous racontez ce soir, c'est dramatique pour votre fils, c'est horrible pour la façon dont vous avez été traité ensuite.
En fait, c'est ça. Et je me dis, nous, on n'était pas la victime directe. Je me dis, mais je ne me mets même pas à la place des victimes qui ont le courage d'aller porter plainte et qui sont reçues comme on l'a été.
Mais comme Océane a été reçue.
Voilà, exactement.
Comme Océane a été reçue.
C'est un
Océane,
peu ce qui a déclenché mon appel. Hein,
comme Océane a patienté, a cru en la justice, a cru qu'on c'est allait au moins inquiéter ses prédateurs. Et au bout du compte, rien.
C'est ça.
Voilà.
C'est ça.
Il n'y a qu'un journaliste de France 3, Auxerre, qui est allé dans le bar à vin où le fameux patron l'avait abusé un soir, chez elle, en lui disant qu'il allait lui apprendre à faire des cocktails, qui a osé, avec sa caméra, y aller. Aujourd'hui, le contre-pouvoir, en fait, c'est nous.
C'est ça, exactement. Donc, voilà. C'est vraiment le... Tu veux rajouter quelque chose, Jean-Daniel ?
Excuse-moi, Jean-Daniel, je t'ai appelé Jean-Pierre tout à l'heure.
C'est pas grave. Ne t'inquiète pas, aucun souci.
Ça lui va bien aussi.
Olivier, tu sais, en parler ce soir, c'est déjà une victoire. Franchement, en parlant avec des parents endeuillés, mais cette histoire, j'ai déjà entendu 4 ou 5 fois. Et je pense que c'est en parlant qu'on va sensibiliser les décideurs, parce que s'ils sentent monter une contrariété pour nos gamins qui sont bousillés, même si la justice dit qu'à 18 ans et demi, on est majeur, je pense que ça va bouger. Ça va prendre du temps, il faut l'accepter. Mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Déjà, en parler, c'est une victoire.
Bien, je te remercie. Bien sûr. Mais merci à vous d'avoir le courage et surtout la sobriété que vous dégagez parce que vous êtes exemplaire. Je n'aurai pas ce calme. Vous l'avez sans doute remarqué.
On a fait du chemin depuis.
Oui. Je pense qu'en plus, je réagis sur l'instant, mais je pense qu'après, on est obligé de réfléchir.
Merci de nous avoir permis, en tout cas, de nous
exprimer. C'est certainement pas moi qui vais jeter la pierre. Tu sais, j'avais le cerveau à l'envers quand je l'ai appris, donc je sais très bien par où on passe. Le tout, c'est qu'il ne faut pas devenir nous-mêmes des prédateurs, parce que sinon, on ne fera rien évoluer.
Bien sûr.
En tout cas, je suis entièrement d'accord avec toi. Et quelle victoire de parler de la
transition. Et ne pas se substituer à cette justice, même si elle marche pour l'instant, comme vous l'avez dit, pour l'instant, qui ne marche pas comme il le faut. Merci en tout cas.
Améliorons-la. Ouais. Merci Olivier.
Merci pour votre combat. Et puis n'hésitez pas, voilà, vous le savez, je le dis à tous, mais n'hésitez pas, on est là, vous savez où nous trouver. D'accord ? Vous êtes là ?
Excusez-moi. Oui, bien sûr. C'est toi le chef. Hein.
Non, je vous disais, vous connaissez le chemin, donc n'hésitez pas, vous nous tenez au courant s'il y a
avec
des avancées. Si... D'accord ?
Avec grand plaisir.
C'est très gentil à vous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Je vous en prie. Bonne nuit.
Super émission. Vas-y.
Merci. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Il est minuit 45 sur Europe et nous accueillons Gaëtan maintenant au 39-21. Bonsoir Gaëtan.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. Comment ça va Gaëtan ?
Oui, eh ben écoutez, ça va très bien, oui. Maintenant, j'ai une nouvelle situation, donc tout va bien.
Alors, quelle est cette situation ? Dites-nous.
Oui, eh ben c'est que la dernière fois que je vous avais eu, j'étais encore chez ma grand-mère.
Oui.
Et en fait, eh ben depuis, j'ai déménagé et je suis retourné chez ma mère.
Alors, vous êtes dans quelle région ?
À Pierrefeu-du-Var.
D'accord. Donc, qu'est-ce que ça change pour vous ?
Eh bien, c'est que, du coup, elle a plus l'habitude, du coup, que je puisse... Donc, que j'arrive à vivre, en fait, que je puisse vivre normalement. Par exemple, elle ne me dit pas que je fais trop d'ordinateur ou des choses comme ça, ce qu'elle me disait ma grand-mère. Et du coup, ça fait qu'elle me laisse un peu plus ma mère... tranquille pour mes activités du quotidien.
D'accord.
Oui. Et du coup, j'en ai profité du coup de cette situation pour recommencer un petit peu à zéro et aller du coup à Pôle emploi et demander un petit peu, parce que j'ai expliqué que j'étais passionné par la radio. Et il m'indique, en fait, je ne savais pas ça, que j'avais le droit à un compte de formation, en fait, avec ce que j'avais travaillé.
Ah bon ?
Et je vais pouvoir, du coup, faire une VAE dans la radio.
D'accord. Donc, bon, du coup, c'est une super nouvelle, Gaëtan.
Ben oui, c'est une super nouvelle, oui. Je suis trop content.
Et vous voyez que vous avez bien fait de ne pas accepter ce que ce patron voulait vous faire faire, au final, de plus, et puis de retourner près de votre mère, parce que ça, c'était la solution. Hein,
ben oui.
Comment vous l'avez eu, ce contrat-là, en fait ? Vous êtes allé demander ? Vous avez... Qui vous a aiguillé vers ça ?
Oui, c'est qui m'a aiguillé ?
Oui.
Ben en fait, c'est Pôle emploi.
C'est Pôle emploi, d'accord.
Oui.
Ok.
Et du coup, j'ai commencé une VAE dans la radio, oui, et c'est super content.
D'accord. Et dans combien de temps vous commencez ?
Avant le 31 décembre, le temps de faire une demande de bourse, ça va à peu près d'ici un mois.
D'accord. Et donc, ça vous portera, le BAE, c'est une équivalence de diplôme.
C'est une validation d'acquis de compétences, oui, qui va porter le niveau d'un BTS.
D'accord. Donc, super. Vous pouvez peut-être bosser en radio à vie. Enfin, en tout cas, dans le milieu que vous aimez.
Oui, c'est ça, oui.
Quitter le bénévolat pour devenir professionnel dans la radio.
Oui, mais en attendant, du coup, de devenir professionnel, je vais continuer à être bénévole. Et en plus, maintenant, j'ai une nouvelle radio, en plus de celle où j'étais avant. Et du coup, je continue un peu à me perfectionner là-dedans.
Et ben, c'est super. Je suis ravi pour vous, parce que je sais combien vous êtes passionné par la radio. Donc, voilà encore une bonne nouvelle pour ce soir. Vous nous tiendrez au courant, hein, Gaëtan ?
Oui. Pas de soucis, je me tiendrai au courant, oui. En tout cas, voilà, c'est cette nouvelle situation que j'ai.
Super. Vous êtes allé à la plage un peu, ou vous avez eu le temps depuis que vous avez déménagé ?
Non, pas du tout cet été. Je suis un peu resté chez ma tante que je n'avais plus vue depuis 5 ans.
D'accord. Bon, bah, ça sera les premiers mois d'été prochains.
Oh, oui, ce sera, oui. Mais après, j'aime pas trop la plage.
Ah
après,
oui, vous n'aimez pas trop la plage, oui, d'accord.
Je suis allé au lac, plutôt.
Ok, d'accord. Oui. Bon, et puis, quand vous aurez le diplôme, vous nous tiendrez au courant, hein.
On
pourra peut-être vous filer un petit coup de main. Ok ?
Oui, bon. D'accord.
On vous embrasse, Gaëtan.
Moi aussi.
Et bravo à vous, bravo.
Oui, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Il est minuit 50 sur Europe 1 et nous saluons Yvette, Félag, Mamie Tantam, Sarah, Nathalie, Brigitte, Isabelle, Hélène, Philippe qui nous ont écrit ce soir au 739-21. Merci pour votre fidélité, chers amis. On accueille Valérie pour finir cette émission. Bonsoir Valérie.
Bonsoir, Olivier.
Bonsoir. Ah, Valérie, comment ça va ?
Ça va. Toujours dans mes ennuis.
Bon, qu'est-ce qui se passe ? Dites-moi.
Ben, la maison où ma mère se trouve, ils sont toujours après moi. Enfin, au niveau de vouloir rentrer pour finir, pour voler ce qu'il y a de peu à voler, quoi.
Qui en fait, de qui parlez-vous, Valérie ?
Les mêmes gens qui ont déjà volé, quoi.
D'accord.
Je pense.
Bon, et en fait, vous êtes toujours dans le village, là ? Vous n'avez pas bougé ? Vous n'avez pas pu vendre ? Vous vouliez déménager ?
J'ai pas déménagé, non. J'ai pas encore déménagé parce qu'il faut en plus vider la maison.
Oui.
Et j'ai personne pour m'aider pour la vider, quoi.
Et en fait, depuis que vous êtes sortie là de l'hôpital suite au décès de votre maman, vous les avez mis en vente les deux propriétés pour pouvoir partir ou vous n'avez pas fait, ou vous n'avez pas pu le faire ?
J'ai pas pu le faire.
Pourquoi ? Dites-moi.
Parce que je me suis renseignée un petit peu.
Oui.
J'ai pas assez pour pouvoir me loger dans un autre logement, quoi.
Vous êtes sûre de ça ? Parce qu'il y a deux maisons, quand même, non ?
Oui, tout à fait. Mais il faut que je les vende.
Oui, il faut que vous les vendiez pour pouvoir aller du côté de Niort, c'est ça? Vous voulez aller à Niort?
Oui, sur Niort, oui.
D'accord. Qui s'occupe de vous en ce moment? Vous avez une curatrice? Vous avez une assistante sociale?
Oui, j'ai une curatrice.
Comment ça se passe avec elle?
Ben là, en ce moment, je l'appelle, mais j'arrive pas à la voir. Parce qu'en plus, ils m'ont coupé l'électricité à Saint-Martin.
Pourquoi ils vous ont coupé
et
l'électricité?
J'avais trois congélateurs.
Oui.
Et les trois congélateurs, il y a des affaires dedans. Et bien, maintenant, c'est tout perdu.
Mais pourquoi ont-ils coupé l'électricité? Elle n'a pas payé la facture d'électricité, n'a pas été payée?
Ben, apparemment, elle n'a pas payé la facture d'électricité, la curatelle.
Et vous n'arrivez pas à l'avoir?
Non.
Est-ce que vous avez essayé d'avoir l'assistante sociale?
Non, mais je pourrais peut-être, oui.
Ben oui, il faut essayer ça, parce que c'est pas normal que vous n'ayez aucune nouvelle de la curatrice. Hein?
Oui.
Parce que si elle ne vous répond pas, il faut appeler votre assistante sociale pour débloquer les choses. Elle arrivera
à
la voir, croyez-moi.
Oui, tout à fait. Oui, vous avez raison. Oui.
Et est-ce que les amis que vous aviez là de la Libre Antenne vous aident toujours un peu? Est-ce qu'ils vous appellent? Est-ce que vous échangez?
Oui, j'ai Josiane qui me téléphone. J'ai aussi Aurélia qui me téléphone aussi.
Je sens que ça va pas fort, hein, Valérie, là.
Non, je suis pas bien.
Non, j'entends. Vous prenez des médicaments, là, en ce moment?
Oui, j'ai des médicaments pour le stress, pour ça.
D'accord. Et que ça?
Oui.
Que ça? Vous avez que ça?
Non, j'ai après une injection tous les mois.
Voilà, c'est cette injection. Est-ce que vous êtes toujours en rapport avec votre avocat?
Non, je ne l'ai pas appelé. Je ne me suis pas renseignée.
Vous devriez l'appeler, Valérie.
Oui.
Parce que cette injection... Enfin, pourquoi on vous fait une injection par mois? Vous n'avez jamais eu besoin d'injection?
Non.
Vous le savez?
Non, ça c'est vrai.
Vous le savez, vous n'avez pas besoin d'injection?
Non.
Du temps où votre maman était là, vous alliez très bien, vous parliez, vous voyez, normalement et tout. Là, on sent que vous avez du mal, même à parler.
Oui, tout à fait.
Vous l'avez toujours, le numéro de votre avocat?
Oui, je crois.
Sûr?
Oui,
parce que moi, je l'ai, hein, vous vous rappelez, vous me l'aviez donné avec votre maman.
Ah oui, tout à fait.
Donc, vous savez quoi? Vous n'allez pas raccrocher à la fin, au lieu de le chercher. Vous n'allez pas accrocher, je vais vous le donner hors antenne.
D'accord.
Hein?
Oui.
Parce que Florian, je suis en train de lui envoyer.
Oui.
Et comme ça, il vous le donnera, vous le noterez bien. Il faut que vous appeliez votre avocat et que vous lui disiez que demain, j'essaierai de lui laisser un message. D'accord? Moi déjà.
Oui.
Parce que est-ce qu'il est au courant de l'hospitalisation de force, là, d'il y a maintenant, ça fait bien 6-8 mois maintenant. Hein.
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'il est au courant de l'injection que vous avez depuis?
Non, pas du tout. Pas du tout, il n'est pas au courant, je ne l'ai pas mis au courant.
Ben oui, parce que vous êtes toute seule et personne ne conteste pour vous. Donc personne ne dit que vous n'avez pas besoin de ça.
Non, personne. Oui, ça c'est vrai. J'ai du mal à parler avec.
J'entends.
Je
précise à celles et ceux qui nous écoutent que je vous ai eu, avant cette mésaventure, je vous ai eu au moins 6 ou 7 fois au téléphone avec votre maman.
Oui, tout à fait.
Avec toutes ces histoires, a fini par rendre l'âme et que vous étiez vous n'avez jamais eu besoin d'injection, vous conduisiez, vous essayez de vous en sortir avant.
Oui.
Cette histoire est une histoire de fou.
Ah, totalement.
Donc là, j'ai donné le numéro à Florian, d'accord? Donc
oui.
Vous ne raccrocherez pas et il vous le donnera à la fin, d'accord?
Oui, et pour mes congélateurs, comment ça va aller?
Oh ben, les congélateurs, c'est mort. Tout ce qu'il y a dedans, c'est fini, Valérie.
Oui.
Mais c'est quand votre curatrice, elle doit savoir ce qui s'est passé avec la facture. Donc, quand la curatrice, vous aurez des nouvelles. Mais ça, il faut que vous appeliez l'assistante sociale. Elle est responsable de vous. Hein,
elle doit, à fait.
Elle doit débloquer les situations. Elle doit vous aider.
Oui, tout à fait.
Et normalement, les assistantes sociales, elles sont gentilles en plus. Hein.
Oui,
elles ont beaucoup de travail, mais elles sont gentilles. Elles font tout ce qu'elles peuvent normalement. Donc, il faut que vous lui expliquiez bien que vous n'arrivez pas à avoir. C'est-à-dire, vous avez un numéro de téléphone, elle ne vous répond pas ou vous appelez une. Je ne sais pas trop comment ça marche. C'est quoi? C'est un pôle.
C'est son portable.
C'est son portable. D'accord.
Oui.
Et vous l'avez appelé combien de fois là?
Plusieurs fois, 3-4 fois.
3-4 fois, elle ne vous rappelle pas?
Non.
Est-ce que
je lui laisse des messages.
Vous lui avez dit pourquoi vous lui laissez des messages?
Pour la facture d'électricité, puis téléphone aussi.
Elle devrait vous tenir au courant, c'est pas normal.
Je tombe à chaque fois sur sa messagerie.
Vous allez donner son numéro à Florian, d'accord?
Vous voulez que je vous donne le numéro?
Vous allez le donner à Florian hors antenne, pas à l'antenne. Hein. Vous ne me le donnez pas là, d'accord?
Non, je sais, oui, je vais lui donner.
Et on va laisser un message aussi, nous, d'accord? Pour lui demander pourquoi elle ne vous rappelle pas.
Oui, tout à fait.
Bon, c'est important que vous appeliez votre avocat. Moi, je vais lui laisser un message demain, je vous promets. Et il faut que vous lui laissiez un message, Valérie, pour lui parler de cette injection. D'accord?
Oui, d'accord.
Je vous embrasse et puis vous me tenez au courant, ok?
D'accord, Olivier.
Je vous embrasse. Au revoir, Valérie.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. On se retrouve demain, bien évidemment, à partir de 23h. En attendant, vous dormez bien. Je vous le dis tous les soirs, pensez à vous quand vous vous endormez. Pensez à ce que vous pourriez faire demain pour vous et uniquement pour vous, pour vous offrir quelque chose. Il y a des choses simples qu'on peut s'offrir, vous le savez, je vous le dis souvent. N'oubliez pas qu'ici, vous êtes chez vous, qu'on vous aime et qu'on se languit de vous retrouver dès demain. Je vous embrasse, salut.